Europe 1.
Et vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec François Claus. Il est 18h32, l'heure du débat des grandes voix. À vos côtés ce soir, François, Michel Cotta, grande voix d'Europe 1, et Gilles Clavreul, délégué général du think tank L'Aurore. Et vous aussi, vous pouvez réagir au 39-21.
Et oui, nous attendons vos appels. Bonsoir Michel Cotta.
Bonsoir.
Bonsoir Gilles Clavreul.
Bonsoir.
Un mois jour pour jour, certains vont dire un mois déjà, d'autres vont dire un mois seulement, entre scepticisme peut-être ou enthousiasme, le premier bilan que l'on peut faire du premier mois du nouveau Premier ministre Jean Castex. Je vous propose, madame, monsieur, de réécouter le 15 juillet dernier à l'Assemblée nationale, déclaration de politique générale.
Dans un pays qui excelle dans le débat d'idées, dans la conjugaison des grands principes, parler d'exécution, de mise en œuvre, d'efficacité opérationnelle peut sembler trivial. Toutes ces notions sont depuis longtemps reléguées au rang de choses subalternes. C'est une affaire entendue, l'intendance suivra. Eh bien, mesdames et messieurs les députés, depuis longtemps, vous le savez, l'intendance ne suit plus.
Voilà, on a entendu un peu de brouhaha derrière, appel à l'ordre des députés, des applaudissements derrière. Michel Cotta, on a un peu le sentiment qu'il y a la quintessence du style Castex, et dans la forme et dans le propos de fond, dans ces 40 secondes d'extrait de son discours de politique générale.
Vous avez d'autant plus raison qu'avant ce discours de politique générale, bon, Castex n'était pas très connu, il était connu par certains, comme notre ami... qu'il connaissait depuis longtemps.
Gilles Clavreul qui va commenter dans un instant. Lui, l'ancien préfet.
Mais c'était quelqu'un qui était passé sous les radars, sous tous les radars. On savait que oui, il avait été là chez Bertrand à l'Élysée. Mais au fond, on se disait, est-ce que quelqu'un comme ça peut tenir un discours de politique générale? Parce que franchement, c'est difficile, c'est pas rien. Et ben voilà, en une heure pile, ce qui montre déjà son professionnalisme. Il a absolument dit l'essentiel, et on vient de l'entendre, c'est-à-dire l'opérationnel en France, le mot opérationnel en France est jugé absolument inutile, presque, pas seulement banal, presque dérisoire. Et lui, c'est l'homme de l'opérationnel, c'est ce qu'il voulait montrer. Et c'est vrai qu'à partir de ce discours de politique générale, on a eu droit à un homme plus crédible, au fond, dans sa fonction de Premier ministre, et... même carrément, après, on verra ce qu'il attend. Hein. Je veux dire, mais lui, son personnage en tout cas, est pas mal passé, et le sondage le montre.
Et les sondages le montrent, puisqu'il a même une popularité, alors les sondages sont ce qu'ils sont, mais aux alentours de 54, entre 54 et 56%, supérieure à celle de son prédécesseur, qui était lui-même assez populaire pour un Premier ministre sortant. Gilles Clavreul, j'évoquais votre passé d'ancien préfet. On est... dans l'injonction où vous pensez que là, il va pouvoir faire bouger une machine qui semblait trop inerte, du moins dans son analyse.
En tout cas, il manifeste des intentions à ce niveau-là qui sont très claires, puisqu'il renverse la perspective habituelle d'un discours d'État descendant, injonctif, justement, où on pose un certain nombre de grands principes, et puis on s'attend à ce que... par définition, ça suive derrière. Et là, il dit, ben non, le problème, c'est justement à partir du terrain qui se pose et qu'il faut le reposer, le reconsidérer. C'est-à-dire qu'un certain nombre de décisions publiques ne sont pas suivies des faits, mal suivies des faits ou n'impriment pas dans la durée. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de son expérience professionnelle antérieure. Il a été en préfectoral, il a été en DAS, il a été président de Chambre régionale des comptes. Il a fait en fait toute sa première
directeur
carrière.
Directeur des hôpitaux, rappelle-lui de gérer le déconfinement. Voilà. Il allait gérer Paris 2024 de manière très, très administrative et de terrain.
Voilà, c'est ça. Et en fait, il a incorporé et amené, lorsqu'il a été nommé dans des postes parisiens de haute responsabilité, une culture terrain qui n'est pas la dominante de ces administrations parisiennes, loin de là.
Alors, le danger, Michel Cotta, c'est que après ce discours de politique générale, on a donc eu 22 déplacements, j'ai compté là en 31 jours. Qui pour certains peuvent rappeler le début des années Sarkozy, où il s'agissait d'occuper l'espace médiatique avec un thème par jour, et que les Français en sont un peu revenus de cela. Est-ce qu'il n'y a pas le danger, malgré l'injonction de vouloir faire bouger les choses, à faire trop de communication qui viendrait tuer la décision politique ?
Enfin, vous savez, la communication, c'est de la politique, hein, aussi. Il ne faut pas opposer forcément les deux. Alors, effectivement, on peut se dire que l'homme des territoires, puisque c'est comme ça qu'au fond on l'a accueilli, est devenu l'homme du terrain. Et peut-être, à force de répéter sur place un peu des lieux communs, qui sont les masques, la distance sociale, etc. À force de répéter ce genre de choses, même avec vigueur, il risque, évidemment, s'il continue sur ce rythme. Maintenant, il ne continuera pas sur ce rythme, parce qu'on attend le plan de relance pour le 24 août. Et au fond, il a jusqu'au 24 août pour manifester cette volonté d'être sur le terrain. En plus, j'ajoute que c'est une image contraire, ou mettons complémentaire à celle d'Emmanuel Macron. Et cette image du terrain est quand même très importante, donc il faut qu'il le marque.
Vous diriez, Gilles Claverol, qu'il a été choisi par Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron avait besoin justement d'un double qu'il ne savait pas incarner, lui, sur les questions de laïcité, par exemple, sur les questions de sécurité, où on sentait qu'il y avait un déficit dans la relation entre le président et le pays, et que c'est ça qui a présidé à ce choix.
Absolument. Je crois que vous avez tout à fait raison. Par rapport au positionnement de Macron, non seulement personnel, mais la manière dont il avait un peu contourné ces sujets lors de sa campagne présidentielle de 2017 et lors des premiers temps de mandat, il a compris que là, il y avait une faille potentielle pour tout de suite, compte tenu de l'importance de certains sujets de sécurité, des fractures territoriales ou encore des questions de séparatisme, comme il a choisi désormais de les appeler. Donc il a senti que là, il y avait une faille et, à plus forte raison, il s'est dit que cette faille pouvait être vraiment très préjudiciable pour lui dans la perspective de 2022. Donc il avait dit qu'il se réinventerait, ben il l'a fait, ou en tout cas, il l'a fait.
Moi, le premier.
Par l'entremise, voilà, par l'entremise de son Premier ministre, qui est pas l'inverse d'Édouard Philippe, c'est pas tellement ça, hein. Ils ont quand même un peu aussi la même formation, le même parcours, mais qui a mis immédiatement, dès son discours de politique générale, la dominante sur la sécurité, le terrain, la laïcité, donc des problématiques qui sont pas spécialement de droite d'ailleurs, ou en tout cas pas uniquement, mais qui montrent bien que c'est la question de la cohésion nationale au fond qui va être au centre des enjeux pour 2022.
Donc on a vu que la fragilité s'exprimait pendant le
Exactement.
Mouvement des Gilets jaunes, et que seul, y compris en bras de chemise, même pendant 13 heures de débat, le président de la République n'arrivait pas à recimenter. Michel Cotard, je vous propose, on a ouvert le débat aux auditeurs qui sont passionnés par vos propos et qui veulent réagir. Des appels au 39-21. Il y a Frédéric qui nous appelle par exemple de Gironde, un département qui a fourni un ex-premier ministre, monsieur Alain Juppé. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous et merci de me prendre à l'antenne.
Et Chabandelmas, nous précisons évidemment qui sont là, deux premiers ministres effectivement de la Ve République venaient de votre département. À vous Frédéric.
Voilà. Alors moi, bon, je voulais dire quand même, monsieur Castex, bon, c'est quelqu'un quand même, bon, qui me fait bonne impression, parce que bon, il hérite d'une situation qui est très difficile. Je pense que c'est un homme qui a tête sur les épaules, à l'inverse d'Edouard Philippe, qui nous a plutôt enfumé, qui s'est posé en martyr, mais qui pour moi n'était pas du tout l'homme de la situation. Enfin, monsieur Castex, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a le charisme, la volonté et la force de remonter les choses dans une situation qui est, je le reconnais, très difficile. Le seul bémol, moi, qui me fait peur, c'est la sécurité, le problème de la sécurité, parce que quand je vois qui on a nommé comme garde des Sceaux, croyez-moi, je m'inquiète beaucoup. Ce monsieur, le jour de son investiture...
C'est marrant, j'ai cru, Frédéric, que vous alliez me parler du ministre de l'Intérieur, mais non, vous me parlez du garde des Sceaux.
Ah oui, c'est parce que, mais vous savez, l'intérieur, la police n'a que les moyens que lui donne la justice. Si la justice n'est pas à l'origine des mesures radicales pour donner à la police les moyens de réagir, la police ne pourra rien faire. Et je ne comprends pas cette décision de ce monsieur qui est quand même, bon, je dirais, moi, que j'apprécie peu. Vous savez, moi, un avocat bénévole de la famille Mera, moi, vous savez, pour moi, je ne trouve pas que ça soit une carte de visite bien jolie. Mais ça m'inquiète, voilà.
Question de la sécurité, ouais. D'ailleurs, on notera que ce fut l'un des déplacements du Premier ministre. Il est allé à Nice dès le samedi, suivant les affaires au quartier des Moulins, où il a réaffirmé avec grande force la force de la République et de l'État, et non pas celle de ceux qui tiennent les quartiers. Merci Frédéric pour votre commentaire. Michel Cotta, vous voulez réagir aux propos de Frédéric ?
Je réagis au fond parce que c'est vrai. Que Éric Dupond-Moretti est un avocat célèbre. Je riais hier soir quand je l'ai vu sur TF1 interpréter un rôle de magistrat.
Ah oui, dans le film de Lelouch.
Dans le film de Lelouch, oui. C'est ça. Donc on se dit, voilà, il a fait du théâtre, il fait du cinéma. Manifestement, il en avait assez de son métier d'avocat. Et alors, il a accepté la chancellerie.
Mais il aurait pu faire de la chronique radio aussi, ça a failli.
Oui, ça a failli.
Je referme la parenthèse.
Alors, ceci étant, présomption d'innocence pour lui aussi. C'est-à-dire que souvent, d'abord, des avocats sont souvent ministres, garde des Sceaux. On a vu Roland Dumas, on choisit des gens qui sont des avocats, c'est-à-dire qui
Robert
ont défendu...
Banater.
Qui ont défendu des causes contestables. Badinter, vous avez raison de le dire, était contre la peine de mort à un moment donné.
Et très minoritaire dans le pays.
Était très minoritaire. Bon. Donc, il faut, je crois, faire confiance à Éric Dupond-Moretti. En revanche, je pense que l'histoire d'Armanin, c'est-à-dire qui est remis en cause d'une manière générale et, à mon avis, excessive, parce que tant qu'on ne sait rien... Mais c'est vrai que ça risque... à long terme ou à court terme, d'affaiblir un peu ce gouvernement. Alors on peut dire que c'est injuste, tout ce qu'on veut. C'était un atout, en principe. C'était le jeune Sarkozy. Et le jeune Sarkozy s'est heurté tout de suite à une contestation violente.
Gilles Clavreul, on est d'ailleurs assez étonné de ce basculement, parce que tout le monde attendait finalement le nouveau gouvernement sur les questions de la crise économique. Or, crise économique, il reçoit les syndicats. Il est calme. Même la CGT sort de Matignon en disant on a entendu un vrai souci de nouvelles relations sociales. Et paf, la sécurité avec Darmanin, le fameux j'étouffe, les incidents de Nice. On est étonné que ce soit là visiblement un talon d'Achille qu'on n'avait peut-être pas anticipé.
Bah, ou peut-être que c'est le talon d'Achille qui existait avant, qui n'a pas été complètement résorbé.
Soigné,
voilà, plus exactement, par... Dans cette configuration, et puis il y a un enchaînement d'événements aussi qui arrive, c'est aussi ça l'actualité. Cependant, toutes les cartes vont être entièrement rebattues à la rentrée, parce que la crise sociale, elle va vraiment venir et se manifester de façon visible, profonde, elle va affecter les entreprises, les familles, donc ça va être complètement autre chose. Là, effectivement, le gouvernement Castex a réussi à planter un décor de dialogue social assez nouveau et on a récolté les fruits tout de suite. Le Ségur de la santé s'est réglé comme ça, quasiment sans coup faire rire et avec effectivement des paroles plutôt laudatives et inhabituelles du coup, hein, de la part des syndicats. Je pense que c'était pas nécessairement sur le terrain socio-économique qu'Emmanuel Macron se sentait le plus en difficulté et en besoin de rattrapage. La crise viendra de toute façon, mais il savait qu'il était stable sur ses appuis, non seulement à travers les membres de son gouvernement, mais tout simplement parce que c'est des sujets qui lui parlent. Tandis que sur les sujets régaliens, dont
peut-être
il n'a pas...
Peut-être pas dans le sens dans lequel il pensait les résoudre non
ça,
plus.
C'est,
le
tout fameux, à fait. Tout à fait.
Moi, le premier...
Absolument, tout à fait. Simplement, bon, il est sur un terrain qui lui est quand même familier. Alors, il sait que maintenant, il va affronter des difficultés inédites, mais il y est quand même plus ou moins préparé. Sur le régalien, c'est beaucoup moins le cas. Et encore une fois, d'un point de vue purement politique, il a compris, c'était pas forcément le cas au départ, il a compris qu'une bonne partie de sa réélection en 2022 se jouera là-dessus.
Oui, j'ajoute un élément très très important pour Castex, c'est qu'au fond, quand il était question de changer Édouard Philippe, tout le monde se disait où va-t-il retrouver quelqu'un qui maintienne, qui divise l'électorat de droite et qui attire une partie de l'électorat de droite. Et c'est vrai que c'était une équation.
Là, on entre dans les calculs politiques voilà.
C'est important parce que quand on dit qu'on est ni à gauche ni à droite, il faut bien être quelque part. Il faut être au centre, centre droit, centre gauche, mais il faut bien être quelque part. Donc, Jean Castex permet cette stabilité au chef de l'État. Pour le reste, ce qui se passe bien malin est de savoir, enfin, celui qui saurait comment ça se passera en septembre. Parce que
on a entendu ce matin le président Les Républicains de la région PACA, Renaud Muselier, dire moi j'aurais voté ma confiance tout de suite à Jean Castex de manière
Ses copains n'ont pas fait la même chose.
malgré tout, on sent effectivement sur le plan politique, les lignes sont en train de bouger, que le calcul est peut-être bon vis-à-vis de capter l'électorat de droite. Beaucoup d'appels au 39-21. Il y a Francis qui nous appelle de Nancy. Bonsoir Francis.
Bonsoir François et bonsoir à tous les éditeurs.
On est heureux de vous accueillir sur Europe 1, que vous participiez au débat des grandes voix. Allez-y Francis.
Oui, alors on a viré le Premier ministre précédent en nous expliquant qu'il avait une bonne cote de popularité. C'était quand même le ministre de la révolte des Gilets jaunes. C'était le ministre qui avait le record sous la Ve République du nombre de ministres ayant dû démissionner pour des affaires financière ou autre. Et on l'a remplacé par quelqu'un, comme on avait une révolte des territoires avec la révolte des Gilets jaunes, on l'a remplacé par quelqu'un qu'on a habillé comme Premier ministre des territoires. Donc il est sur le terrain tous les jours, c'est normal, puisque c'est le Premier ministre des territoires. Mais pour ceux qui font un peu de mots croisés, c'est juste un nervi, c'est un exécuteur des basses œuvres. C'est que vous mettiez Dupont, Durand, Castex ou Édouard Philippe, ça ne changera strictement rien, mais vraiment strictement rien, au grand problème du pays.
Vous ne croyez plus à la solution politique que Jean Castex incarne en venant dire on prend des décisions qui n'arrivent pas sur le terrain, ça a été le sens de son discours, et bien là on va mettre Gilles Clavreul, de nouveau préfet, plus jeune, plus proche du terrain, on va décentraliser la décision. Visiblement Francis n'y croit pas.
Mais Francis illustre à mon avis très bien ce qui attend le gouvernement et ce qui attend à plus forte raison Emmanuel Macron en 2022. C'est d'arriver à vaincre le scepticisme d'une bonne partie des Français qui n'y croient plus. Et ça date pas d'ailleurs ni de Castex, d'Edouard Philippe, d'Emmanuel Macron, ni même de leurs prédécesseurs. C'est un mouvement qui s'est engagé depuis très longtemps. Il y a une perte de confiance terrible, en particulier dans l'électorat populaire. Et les gens se disent, et exactement comme vient de le dire Francis, ouais, ils peuvent bien changer les têtes, ils peuvent changer le casting, l'allure, la façon de faire et tout ça, mais en réalité, ils nous enfument. Et ça, ce sentiment-là, il est très profond, il s'est traduit notamment à travers la très forte abstention du second tour des municipales, il se traduit par des mouvements de rejet, de protestation. C'est ça, au fond, la vraie difficulté que les politiques, tout bord confondu, ont à affronter. Et là, Emmanuel Macron, je crois, sait qu'il n'est pas au bout de ses peines pour parvenir à restaurer la confiance des Français.
Alors j'aurais voulu donner le mot de la fin à Michel Cotta, mais on a déjà débordé de 30 secondes.
S'y ajoute le problème du Covid et de la deuxième vague.
Et qui ne fait qu'exacerber les difficultés. Mais Michel, je vous propose, vous revenez demain, si vous voulez. Les grandes voix d'Europe 1, pour continuer à commenter l'actualité politique. Je remercie Francis et Frédéric qui nous avaient appelés. On se retrouve demain, 18h30, pour un autre débat des grandes voix.
18h49 sur Europe 1, à suivre dans votre grand journal du soir. François Claus, la rétro d'actu de Justin Morin.
Oui, nous avons décidé avec les reporters d'Europe 1 de vous faire revivre ces 4 mois absolument singuliers, historiques, dans notre vie, dans leur vie. Et on va revivre les émotions de ces mois si particuliers avec les reporters d'Europe 1, Justin Morin, dans un instant, et le difficile travail de deuil.